et merci de nous rester fidèles à l'écoute de la tribune de presse de ce vendredi 27 janvier 2017. Nous parlerons ce soir des parties prenantes au dialogue sur la médiation de la CENCO qui se sont mises d'accord sur la répartition des postes ministériels. C'était hier soir au cours de la petite plénière et chaque composante s'est retrouvée dans la taille du gouvernement qui passe de 46 à 53 ministres et vice-ministres. Les évêques ont prévu mettre fin à ces travaux samedi 28 janvier après deux reports consécutifs. Et puis nous parlerons de la corruption avec le dernier rapport de l'ONG Transparency International du mercredi 25 janvier dernier qui a classé la RDC 156e sur les 177 pays. Pour le président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et représentant des Transparency International en RDC, ce classement signifie que la RDC figure parmi les 20 pays les plus corrompus de la planète. Et pour débattre autour de ces deux thèmes, je reçois dans ce studio Jean-Pierre Kayembe. Bonsoir.
Bonsoir cher Béry, bonsoir à tous.
Vous êtes journaliste et responsable de la presse numérique à RTGA, une télévision qui émet ici à Kinshasa. J.R. Mokolo, bonsoir.
Bonsoir Béry, Franck-Claude Chaka.
Vous êtes journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision qui émet ici à Kinshasa. Et puis au téléphone, Baba Isaac Kalongé, bonsoir.
Bonsoir mon frère.
Vous êtes journaliste indépendant basé à Mbujima. Et je dis aussi bonsoir à Mimi Kindou qui assure la mise en onde de cette émission. Et je salue aussi Kéline Kouté qui nous présente la revue de presse maintenant. Kéline, bonsoir.
Bonsoir. La question de la répartition des postes dans le gouvernement de transition est le sujet principal abordé par les journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Un nouveau pas a été franchi au centre interdiocésain où les partis ont trouvé un accord sur la répartition des sièges dans le prochain gouvernement de transition, écrit le potentiel à la une. En conséquence, la taille du gouvernement a été revue à la hausse. Elle passe désormais des 46 à 53 membres, ministres et vice-ministres compris. Et question sans doute de contenter tout le monde, commente le journal. Ce gouvernement de 53 membres est composé des 42 ministres et 11 vice-ministres, renseigne le Phare. Selon la clé des répartitions définie de commun accord, la majorité présidentielle devrait prendre possession de 18 ministères et 3 vice-ministères, le rassemblement 13 ministères et 3 vice-ministères, l'opposition signataire de l'accord du camp Tchatchi de 8 ministères et 3 vice-ministères, l'opposition républicaine de Kengo Adondo, 3 ministères et la société civile de 2 ministères, rapporte ce quotidien. Actualité CD annonce pour sa part la mise en place d'une sous-commission pour la nomenclature des postes dans le prochain gouvernement. L'avenir note de son côté qu'un compromis est trouvé sous la taille du gouvernement, mais renseigne que les 4 ministères de souveraineté ne sont pas compris. Ces ministères élèvent du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il s'agit des affaires étrangères, de l'intérieur, de la défense et de la justice. Enfin, le compromis trouvé s'exclame la prospérité qui révèle tout de même que deux sujets tout aussi importants sont encore sur la table des négociations. La problématique du mode de désignation du futur locataire de la primature et celle du chronogramme d'application de l'entente politique de la Saint-Sylvestre. Quittons le centre interdiocésain pour parler du rapport de Transparency International. Bonne gouvernance, la RDC classée 156e sur 177 dans le dernier rapport d'indice des perceptions de la corruption à travers le monde publié mercredi 25 janvier 2017. Pour le président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et représentant de Transparency International en RDC, ce classement signifie que la RDC figure parmi les 20 pays les plus corrompus de la planète. Article à lire sur www.radiocapi.net.
Merci Kelly. Et dans l'actualité de cette semaine, vous le savez, des affrontements ont été signalés mardi dans la cité de Kimpesi entre les forces de l'ordre et les adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala. À la base, ces adeptes sont accusés de troubler l'ordre public après s'être attaqués dimanche à la résidence du vice-ministre des infrastructures et membre de ce mouvement qu'ils accusent d'avoir tenu des propos injurieux à l'endroit de leur chef spirituel et député national Né Mwandansemi. Ces affrontements ont occasionné mort d'homme et d'importants dégâts matériels. Jean-Pierre, vous avez suivi cette actualité. Comment vous l'avez analysée?
Écoutez, merci de la parole. Avant de répondre à votre question, je voudrais, comme c'est ma première sortie post-2016, je voudrais en profiter pour présenter mes voeux de bonheur, de santé et longévité à l'ensemble de notre peuple. En profiter également pour rappeler mon attachement à la démocratie et aux valeurs universelles. Et puis rappeler que des propos que je tiendrai dans cette émission engagent ma propre personne. Ce qui s'est passé à Kinshasa dans le Congo central est tout simplement grave. En suivant de près les faits, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre le chef spirituel du parti Église, en même temps, et son dauphin qui est au vice-ministère, je crois, des infrastructures,
oui.
Qui aurait refusé, d'après mes informations, de financer le mariage de son mentor, mm-hmm. Ce qui a occasionné tout ce qui s'est passé. Je crois que c'est des incidents déplorables, dans la mesure où il y a eu perte en vie humaine,
des dégâts matériels.
Des dégâts matériels très importants, mm-hmm. Et même des forces, quelques éléments de forces de l'ordre qui ont péri dans ce qui s'est passé. Tout ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui, qu'il y ait une enquête indépendante, qui soit vite diligentée pour faire la lumière autour de ces incidents. Parce que nous connaissons l'histoire de BDK aujourd'hui, BDM, nous connaissons de quoi ces adeptes sont capables, ce qu'ils ont fait par le passé. Et donc, on ne voudra pas que ce qui s'est passé dans les années 2007 ou 2008 se reproduise encore.
Voilà. Alors, Jean-Pierre, une histoire sentimentale, comme l'a souligné Jean-Pierre, qui tourne au drame, mort d'homme et dégâts matériels importants, qui, selon vous, portera la responsabilité?
Oui, bon, la responsabilité, je crois que sur terrain, bon, on a sûrement arrêté des fauteurs de troubles et qu'on doit les avoir interrogés, qui disent si oui ou non il y a quelqu'un qui est derrière ces incidents. Si sur les choses spirituelles, comme l'a indiqué sur Radio Capi l'autre fois dans un débat Mbuta Zola, bon, il va falloir que la justice, qui ne doit pas en tout cas s'attaquer aux uns et laisser les autres, puisse faire son travail. Mais si c'est ces gens-là eux-mêmes qui ont réagi de façon épidermique, il faut qu'ils soient sanctionnés. Mais je voudrais quand même tirer une leçon. Tout ça, c'est la conséquence du fait que, bon, on a dans ces mouvements-là un leadership pratiquement messianique. C'est un leader politico-religieux. Il y a donc maintenant une confusion entre le fait d'être adepte de Bundu, du Congo,
et
d'être...
Diamayala.
Oui, bon, voilà, être adepte du leader religieux Kenimwa Nsemi et être membre du parti politique. Et tout la pomme de discorde, c'est quoi dans cette affaire? Le fait que Kenimwa Nsemi n'a pas apprécié le poste de vice-ministre qu'on a attribué à son mouvement et qu'il aurait demandé à son poulain Mantezolo de ne pas prendre ce poste-là. Bon, lui a estimé que devant la mangeoire, tout le monde est en train de bouffer, il peut pas rester à l'écart. Bon, il est passé
outre. Mais on parle aussi d'une histoire sentimentale.
Ouais. Oui, bon, l'histoire sentimentale, c'est l'autre camp qui réplique. Mais je crois que la véritable pomme de discorde, je crois que c'est cette histoire-là des ministères et que l'autre a senti que son autorité a été en tout cas bafouée. Quant à l'histoire sentimentale, bon, on connaît quand même des chefs religieux qui se marient à autant de femmes et qui sentent que ça puisse créer des problèmes. Il va falloir que la justice quand même puisse faire son travail pour arrêter les fauteurs des troubles et établir des responsabilités pour qu'on évite en tout cas que ça puisse faire tache d'huile. Vous savez, dans les Kasaï, c'est la même chose, et que ça puisse se dérouler à quelques mètres de Kinshasa. Je crois que c'est pas bon.
Merci. Baba Isaac, comment vous avez analysé cette situation à partir de chez vous à Mbujimayi?
Vous savez, chers confrères, que dans chaque événement, il y a les auteurs, il y a les co-auteurs, il y a les complices. Et il y a les personnes qui assistent passivement à un cas de calamité sociale qui touche la société RD congolaise. Donc, dans le cas du Bas-Congo, dans le cas de cette religion qui fait en même temps la politique, il faut comprendre qu'il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que celui qui a choisi la religion comme un mouvement spirituel d'éducation pour former un peuple à adhérer à son Seigneur éternel, il ne peut pas même pas faire la politique qui est un art de gérer la cité avec les réflexes, la ruse, le mensonge, tout ça. On ne peut pas mêler ça à une religion. Dès lors que c'est mêlé à la politique, ça cesse d'être totalement une religion. Donc, le mouvement qui se passe là-bas ne peut produire des effets néfastes par rapport à la religion, toutes tendances confondues. Et c'est ainsi que vous voyez, quand on parle de musulmans, on fait allusion au terrorisme, et quand on parle de Bundu Diakon, on fait allusion aux tueries. Donc, Ça n'a rien à voir avec la religion.
Merci beaucoup. L'autre actualité de la semaine, c'est la qualification de la RDC au prochain tour de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017 face au Togo. Score du match 3-1. Une information qui a fait énormément plaisir aux Congolais dans son ensemble. Jean-Pierre, comment vous avez analysé la prestation des Léopards en cette première phase des poules, qui s'est d'ailleurs achevée mardi, si je ne me trompe pas?
Non, écoutez, les garçons ont fait un travail exceptionnel. On ne les attendait pas. Et puis, dans ce groupe, on savait qu'il y avait la Côte d'Ivoire qui était favorite.
Le Maroc. On voyait
aussi le Maroc.
D'ailleurs,
a créé la surprise pour se positionner à la première place du groupe. Donc, c'est exceptionnel, en dépit de ce match nul contre la Côte d'Ivoire. Et puis, ce qu'ils ont fait contre le Togo. Donc, quelques failles, il y en a eu. Mais bon, Ibengué, un bon technicien et tacticien, verra comment renforcer son ossature et puis renforcer également le moral de jeunes pour qu'ils fassent du bon foot. Donc, je crois que le Congo attend cette coupe. On a vu ce que les garçons ont fait lors du CHAN. Et je sais qu'ils sont capables de rééditer l'exploit.
JR, finir premier de la poule avec pratiquement 7 points, ce n'est presque jamais arrivé dans l'histoire du football congolais. Est-ce que cela augure des bonnes choses quant à la victoire finale, comme le souligne Jean-Pierre?
On ne dit pas jamais, parce que à deux reprises, nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, nous avions dégringolé. Je me rends compte que nous sommes en train de monter en puissance sur le plan footballistique.
Mais on n'a jamais fini premier avec 7 points.
Avec l'équipe nationale, avec l'entraîneur Ibengué, qui, au lieu de chercher seulement l'argent comme font les autres entraîneurs que nous prenons de l'étranger, je crois que il a aussi l'ambition de pouvoir quand même marquer son nom dans l'histoire du sport de ce pays. Il se donne en tout cas cœur et âme. Mais ce que je vais déplorer, c'est seulement la récupération politique. Quand les Léopards remportent une victoire, il y a certaines officines, certains groupes politiques,
sous l'impulsion,
surtout ceux qui sont au pouvoir, en tout cas, cherchent à flatter les chefs en mettant cela sur son compte, avec le risque que quand nous échouons, que les gens disent aussi que c'est sous l'impulsion du chef. Je crois que le sport doit en tout cas nous rassembler. Comme on dit, malheureusement, la victoire, elle a plusieurs parents, que l'échec est orphelin. Mais il faut féliciter en tout cas nos joueurs. Ils sont en train de se dépasser. Je souhaite que, avec cette allure, qu'ils puissent en tout cas remporter la Coupe d'Afrique et que dans beaucoup de pays, ils sont négligés, mais que cette fois-ci, je crois qu'ils vont décrocher des grands contrats, pour qu'on ait quand même des joueurs qui sont au même rang que Adebayor, au même rang que Yaya Touré, et pourquoi pas d'autres grands noms du football africain qui émergent outre-Atlantique.
Merci. Baba Isaac, le premier match des quarts de finale, c'est prévu déjà ce dimanche face au Black Star du Ghana. Quelle chance donnez-vous au Léopard après une première phase où le parcours a été plus ou moins élogieux?
Je ressens la fierté, mon cher confrère, d'abord pour des raisons que voici. Bravo, nationalisme et patriotisme sont des qualités qui ont aidé les fauves congolais à atteindre le niveau où ils se trouvent. Le Kassai Oriental en est fier. Mais il y a une dimension que vous devez retenir. Dans la crise multiforme dans laquelle le pays se trouve, et les Léopards gagnent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont partis dans quelles circonstances au Gabon, et ils ont eu combien de moyens techniques, logistiques et financiers, et ils ont été soutenus de quelle manière par le gouvernement congolais, qui ne fait pas du ministère des Sports un ministère de souveraineté ou régalien. Ça, vous n'êtes pas sans savoir que dans le partage du gâteau là-bas, à la conférence de Senko, on ne tient pas compte de ce ministère comme un ministère important, comme un ministère régalien. Mais soyez étonnés de voir que tout le monde qui est à Senko là-bas est fier de la victoire et du succès de Léopard. C'est ça qui me choque, qui m'écœure. Parce qu'on n'aligne pas le sport dans les rangs des ministères importants d'un gouvernement. Mais on est content que ce ministère-là trouve un succès, une victoire au profit d'un pays en crise comme le nôtre.
D'accord, on y arrive.
Il faut que les citoyens étrangers nous regardent. Nous-mêmes, nous prenons pas conscience de l'importance de ce ministère qui nous donne aujourd'hui un rang social à travers l'Afrique.
Ok, alors très rapidement, votre pronostic pour le match de dimanche. On finit par ça.
S'ils tiennent compte du patriotisme et des qualités du coach et les qualités personnelles des joueurs, nous pouvons gagner ce match sans difficulté.
D'accord. Jean-Pierre, votre pronostic pour le match de ce dimanche?
Écoutez, on dit souvent du Ghana que c'est le Brésil d'Afrique. On a vu le football qu'ils ont produit.
Mais Ochan a déjà battu le Ghana.
Et donc, on va voir. On va voir ce que ça peut donner. Mais en tant que Congolais, je voterai que les poulains de Jean-Florent Ibengué battent le Black Stars sur un score d'un but à zéro.
D'accord. Très rapidement, JR,
oui,
le score.
Moi, je ne parlerai pas de nombre de buts. Je souhaite la victoire. Mais je devrais en tout cas dire que tout peut arriver.
Merci.
Il faut se préparer à un échec aussi, même si je ne le souhaite pas.
Merci beaucoup et nous entrons tout de suite dans le premier thème de la soirée qui concerne les pourparlers des arrangements particuliers. Les parties prenantes se sont mises d'accord sur la répartition des postes ministériels, comme je l'ai dit au sommaire de cette émission. Hier jeudi soir, au cours de la petite plénière, chaque composante s'est retrouvée dans la taille du gouvernement qui a été revue à la hausse. Elle passe de 46 à 53 ministres et vice-ministres. Des détails avec vous, Askin Zigbiatayoro.
Dans cette répartition, la majorité présidentielle occupe la première position. Elle obtient 21 postes, dont 18 ministères et 3 vice-ministères. Elle est suivie du rassemblement qui va gérer 13 ministères et 3 vice-ministères pour un total de 16 postes. En troisième position, c'est la partie de l'opposition signataire de l'accord de l'Union africaine, représentée par Vital Kaneri et José Makila. Dans leur judiciaire, 11 postes ministériels. L'opposition républicaine de Kingo Adondo accepte de prendre 2 ministères et un vice-ministère. La société civile a quant à elle 2 ministères. La question de désignation du Premier ministre n'a pas été résolue. Monseigneur Fridolin Ambongo explique.
La question relève d'abord de la majorité présidentielle avec l'opposition chargée de désigner le Premier ministre, c'est-à-dire le rassemblement. Il a été convenu que les deux se concertent et nous apportent le fruit de leur discussion demain. Nous avons bon espoir que la question sera aussi réglée.
Ce vendredi, toutes les composantes vont se retrouver en plénière dans l'après-midi. Au menu, adoption de toutes les résolutions qui forment les documents intitulés « Arrangements particuliers ». D'après la CENCO, ce document sera signé ce samedi.
Merci Askin Zigbia. Et dans sa communication de dimanche dernier, les évêques ont prévu la fin des travaux pour demain samedi 28 janvier après 2 reports consécutifs. Ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, sachez que la tribune de presse de ce vendredi 27 janvier reçoit Jean-Pierre Kayembe, journaliste et responsable de la presse numérique à RTGA, une télévision qui est mise à Kinshasa. JR Mokolo, journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision qui est mise ici à Kinshasa. Et Baba Isaac Kalongi, journaliste indépendant. Basé à Mbujimayi. Première question, messieurs, comment vous avez analysé ces avancées, si on peut les appeler ainsi, Jean-Pierre?
Bien, écoutez, moi, je trouve que déjà au départ, je n'étais pas favorable à ces deuxièmes dialogues ou à ces négociations directes, d'autant plus que je ne trouvais pas un soubassement légal. Quand je vous renvoie au dialogue de la cité de l'OIA, c'est un dialogue qui avait été convoqué sur base d'une ordonnance présidentielle, un dialogue convoqué qui répondait notamment aux résolutions des Nations Unies et à certains accords que nous avons signés dans la sous-région.
Et d'ailleurs, donc, la majorité disait que le seul accord qui est légal, c'est celui du 18 octobre.
C'est celui-là, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, le dialogue de la CENCO n'a été convoqué que sur base d'un arrangement verbal entre le chef de l'État et les églises, le chef de l'État qui tient justement à l'inclusivité.
Sinon, moi, les églises n'allaient pas tenir ce dialogue.
Moi je trouve que le dialogue de la cité de l'OUA réunissait tous les ingrédients, tous les critères possibles pour produire un accord qui soit conforme à la Constitution, c'est ce qui a été fait. Alors, vous allez voir entre les lignes que l'accord pondu par ceux qui sont au niveau du centre interdiocésain est flagrant et qu'il viole superbement certaines dispositions de la loi fondamentale, dans la mesure où, d'ailleurs, on interdit tout recours à la Constitution.
Moi, parlons maintenant des avancées.
Au référendum. Mm-hmm. Donc, moi, je me dis que cet accord
devrait
faire l'objet, oui. L'objet même d'un référendum, interroger la population par rapport à cet arrangement. Alors, pour ce qui est des avancées, je crois que déjà que j'étais opposé à ce dialogue, tout ce qu'il peut avoir produit, pour moi, n'est pas très intéressant. Mais bon, quand vous comparez les deux documents, tout ce que je retiens, c'est que à la CENCO, On est juste allé se partager le pouvoir.
Très bien.
Ce n'est que du haut toit de là que je me mette. Donc, je ne vois pas d'avancée majeure. Parce que la primature revient toujours à l'opposition politique. Et j'apprends que c'est l'UDPS. Ami Badi Banga est de l'UDPS. Un élu de surcroît.
Très bien.
Et donc, vous comprenez que ce n'était que... C'est du surplace, c'est ce que disait
très bien, c'est du surplace.
Faire un pansement sur une jambe du bois.
Voilà, je retiens un mot, c'est du surplace et cet accord n'est pas...
Il n'est pas conforme à la Constitution.
JR, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, moi je pense que, contrairement à Jean-Pierre Kayembe, le dialogue piloté par la CENCO a eu le mérite de calmer l'opinion, de calmer les forces du changement qui se préparent en tout cas à la violence à la fin du mandat du chef de l'État.
Très bien.
Vous avez vu par exemple que tout s'est bien passé sans trop de casse.
Allons-y maintenant aux avancées telles qu'elles sont aujourd'hui.
Il n'y a pas vraiment trop d'avancées. Je voudrais d'abord faire une petite observation et constater avec tous ceux qui nous suivent que la RD Congo c'est vraiment un pays à part. C'est un pays qui a comme sport national la procrastination. Le fait de remettre toujours à demain ce qu'on est censé faire aujourd'hui, de ne jamais respecter les échéances, de ne jamais respecter les dates. Les évêques nous disent que c'est samedi, en tout cas c'est le tout dernier report. On va attendre, on va voir
si le
samedi, tout va être bouclé.
Parce que de toute façon,
est-ce
dimanche,
qu'il
n'y
aura pas un
Vatican.
Président de la foule centrale qui viendra encore voir les évêques pour leur dire non, patienter, donner leur encore quelques temps pour que bon, ils finissent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on ne respecte pas les échéances, on ne respecte pas les dates, on ne respecte même pas les textes. Jean-Pierre parle, dit que cet accord de la CENCO viole la Constitution, mais cette Constitution est malmenée avant même ce dialogue, quoi, avant même la signature de cet accord. Nous étions censés aujourd'hui, là, comme les États-Unis d'Amérique, avoir un nouveau président, comme la petite Gambie, là, avoir un nouveau président. Pourquoi nous l'avons failli? C'est parce que rien n'a été fait pour que les élections se tiennent en 2016 comme prévu.
D'accord. Allez-y maintenant aux
avancées. Parce que
l'article
73 qui demande à ce que l'ordonnance des élections 70 jours avant
90 jours
avant la fin du mandat du président en exercice n'a pas été respecté.
Alors
maintenant, pour ce qui concerne cet accord-là, je me rends compte que c'est la mouvance de la cité de l'Union africaine qui sort en tout cas gagnant dans ce partage.
Parce et que donc le rassemblement est floué selon vous.
Et s'en sort avec 35 postes ministériels sur 53. Et pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas se partager les 46 postes? Pourquoi il fallait aller de 46 à 53 quand on sait que le pays n'a pas l'argent? Quand on sait qu'on a un budget misérable? Quand on sait que les gens vivent difficilement, les routes ne sont pas arrangées, les sociales, ça pose problème. On
n'a
même pas de quoi organiser les élections.
Pourquoi augmenter
le nombre des ministères pour augmenter les frais de fonctionnement des
Je ne reviens même pas à comprendre. Je vous redonne la parole hier, je reviens à vous. Baba Isaac, comment vous avez analysé les avancées qui ont été notées par la CENCO? Vous avez entendu Jean-Pierre dire que cet accord viole la Constitution. Vous avez entendu JR estimer que la majorité sort gagnante dans ces accords. Et quelle est votre analyse à votre niveau?
Mon cher confrère, il faut retenir que la tranche tribune de presse pour la fréquence de la paix, la radio Okapi, a aussi un objectif, c'est donner la matière et donner objectivement l'information aux auditeurs, faire en sorte que ceux qui n'ont pas eu la formation concernant la situation politique qui se produit au Congo, cela puisse apprendre, se comprendre comment les choses avancent. Nous ne venons pas ici pour chercher à être au niveau de la gloire, au sommet, tout ça. Non. Nous venons pour donner la matière à ceux qui n'en ont pas. Le gouvernement était prévu à l'accord à 46 membres. On a discuté, on a trouvé que les autres disaient qu'ils avaient un poids politique supérieur aux autres. Ils devaient absolument avoir plus de postes. On est arrivé à réaliser, on a dit ok, qu'ils prennent. Donc de 18 à 16, en passant par 11, 3 et 2, on a réparti les ministères. Sans tenir compte du fait que ces mêmes ministères étaient occupés pendant 15 ans par la majorité. Et vous connaissez la situation à laquelle nous nous sommes retrouvés. Donc pendant 15 ans, la majorité a occupé tous les ministères, et même les postes régaliens, même le poste de souveraineté. Donc nous savons ce que nous savons, il faut aussi que les amis qui sont avec vous le sachent. Bon, maintenant qu'ils ont reparti pour harmoniser, pour que chacun ait sa part, mais que la paix soit préservée. Vous êtes pour la paix ou bien vous êtes pour le partage? Ça, c'est un. Deuxièmement, si maintenant on arrive à harmoniser les vues pour éviter que la crise ne continue pas, mais soyez fiers, soyez contents du fait qu'ils ont harmonisé, ils sont arrivés à un accord. Et le gouvernement sera là bientôt. Même le poste du Premier ministre pour lequel beaucoup de gens, sans lire l'accord dont je détiens la copie ici, parle qu'il fallait 5-4 candidatures. Mais ce n'est pas prévu dans l'accord. Mais les gens ont soutenu haut et fort en disant qu'il faut 3 candidats ou 4 candidats Premier ministre. Mais sans lire l'accord, comme l'accord n'a pas été vulgarisé, ils ont raison, mais il faut lire. Donc, l'harmonie qui a été trouvée pour moi hier, c'est un salut, même si ce n'est pas entièrement fait, mais je compte que les Congolais qui ont pris conscience de leur sort peuvent tout faire pour que les petits points de divergence qui restent là, qui les aplanissent, et qu'on arrive à appuyer le nouveau gouvernement.
Merci. Ça, on l'a dit. Merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, Jean-Pierre Kaimé. Je sais que vous voulez répondre à JR, mais rentrons un peu dans le contenu même de ces postes ministériels. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que hier, tout ce qui s'est passé, c'est que on s'est partagé, on sait qu'il y aura 18 pour les rassemblements, autant pour telle composante, mais qui va occuper les postes de souveraineté? C'est ça les débats à ce niveau, selon vous?
Alors, écoutez, ça relance d'ailleurs la question sur qui fait quoi. Et c'est là que je salue l'ingéniosité du député Patrick Kakwat qui a lancé un bon débat, cherchant à comprendre qui fait exactement quoi dans ce pays. Il y a le 4 postes de souveraineté qui ne sont pas compris dans cette répartition. C'est-à-dire que c'est des postes qui ne seront pas partagés au niveau du rassemblement, au niveau des autres composantes de l'opposition. Il y a notamment la défense nationale, l'intérieur probablement, les finances, et je vois ici les affaires étrangères. Donc ça, j'apprends que d'après une commission...
Alors que la majorité a eu ces postes-là pendant 15 ans, et on sait ce qui en est arrivé.
Oui, mais je sais que c'est des postes de souveraineté et qu'on ne peut pas le partager avec d'autres composantes qui ne partagent probablement pas la vision.
Et c'est pour ça que beaucoup d'analystes accusent carrément la majorité de vouloir bloquer la machine. Comment vous réagissez?
Mais d'abord, moi, je voudrais revenir d'abord au niveau du contenu même de cet accord.
Non, allons-y sur les avancées.
Oui. Non, il n'y a pas eu d'avancée.
Très bien, il n'y a pas eu d'avancée.
Il n'y a pas eu d'avancée parce que je voudrais démontrer que cet accord prévoit l'organisation des élections en 2017. Fin 2017, ce qui est pratiquement impossible à l'allure où vont les choses.
Parce que d'après certains analystes, c'est la majorité qui a bloqué la machine pour en arriver jusque-là, parce qu'on aurait dû avoir les arrangements particuliers de les prendre maximum 4 à 5 jours, et on a fait pratiquement 2 semaines, 3 semaines même.
La majorité, par contre, a fait beaucoup de concessions.
Par exemple?
Beaucoup de concessions.
Par exemple,
du Conseil national des suivis de l'accord. La majorité a renoncé, par exemple, à la première vice-présidence. La majorité a fait beaucoup de concessions dans la mesure où elle a même accepté que la primature revienne au rassemblement. Il a fait beaucoup d'autres concessions que je ne saurais citer ici. Mais bon, tout ce que je note ici, c'est que au niveau des opposants, on est passé de blocage en blocage. Savez-vous combien de fois Mme Bazaïba s'est retirée pendant ces discussions? Et là, j'ai encore appris qu'elle a posé un autre préalable.
Elle
ne veut pas qu'il y ait de préalable. Elle exige absolument la préséance pour ce qui est de postes, les 3 postes de vice-président du Conseil. Donc, il faut constater que cet accord n'est pas le bienvenu, à mon avis. Parce que je voudrais relever quelque chose que les gens ignorent.
Très rapidement,
cet accord contient des pièges. Mm-hmm. On dit qu'il faut changer certains animateurs du bureau de la CENI. Aujourd'hui, le faire serait en quelque sorte bloquer la tenue des élections que l'on veut avoir d'ici 2017.
Très bien. Alors, JR, comment vous analysez cette répartition des postes? Je sais que vous allez aussi réagir aux propos de Jean-Pierre.
Oui, je commence d'abord par réagir au propos de Baba Isaac Kalonji, qui s'est érigé pratiquement en donneur de leçons, qui estime qu'on ne peut pas donner un point de vue sur le fait que la taille du gouvernement passe de 46 à 53 membres. Je lui pose la question, les États-Unis d'Amérique, qui est un pays extrêmement riche, qui a un budget de loin supérieur au nôtre, en tout cas, je crois, moins de 30 départements, et des années, Et si on veut partager, on veut partager ce qui existe. On ne peut pas en créer pour satisfaire l'appétit de ceux qui veulent à tout prix arriver au pouvoir au détriment de l'intérêt général.
Allons-y maintenant à la question.
Ce que je regrette, c'est quoi? On était parti là dans ces dialogues, c'est quoi? C'est pour les calendriers afin de la tenue des élections. Mais on est là en train de se battre pour le partage du pouvoir. Et il faut quand même, je crois, saluer la position du MLC qui, dès le départ, a dit qu'il n'était pas concerné par le partage du pouvoir.
D'où le blocage qu'évoque Jean-Pierre.
Le blocage au niveau du Conseil national de suivi de l'accord, mais pour le gouvernement, le MLC, en tout cas, et ses alliés sont non partants. Je crois que ça permet quand même de dégager des postes pour ceux qui tiennent à tout prix, en tout cas, à être dans ce gouvernement.
Mais vous avez aussi évoqué le fait que la RDC, les Congolais ne respectent pas le timing lorsque vous évoquez le report en report de la date butoir de la fin des travaux. Selon vous, qui bloque finalement la machine?
Oui, qui bloque la machine, par exemple, pour les élections qui n'ont pas été organisées. Je vais citer le professeur Jacques Joly qui disait que nous étions partis de deux tours d'élection présidentielle, par exemple, à un seul tour. Maintenant, on est passé d'un seul tour à zéro tour. C'est-à-dire, tant que celui qui est aux affaires, qui ne tient pas en tout cas à se retrouver ex-président, ne pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Et c'est ce qui a été fait pour que l'élection ne se tienne pas.
Donc pour vous, c'est la majorité qui bloque les choses.
Oui, c'est la majorité qui a tout fait pour qu'on ait ce glissement-là. Et la majorité...
Même si elle a fait beaucoup de concessions.
La majorité ne s'est pas arrêtée là. La majorité est en train de travailler, comme l'a dit Jean-Pierre Kayem, mais aujourd'hui, c'est dans la bouche de tout le monde, les référendums. Donc il faut in fine un référendum pour permettre de changer la constitution, pour que nous fassions comme au Congo-Brazza, pour que nous fassions comme au Rwanda, pour que celui qui est aux affaires reste aux affaires. C'est ça le grand problème. Et maintenant, en contrepartie, c'est quoi? C'est partage du pouvoir, c'est quoi? C'est pratiquement un appât qu'on a balancé dans la classe politique.
Vous êtes d'accord
pour
avec
que les gens
Jean-Pierre
se détournent dans leur combat pour l'alternance, pour la tenue des élections, absolument, pour qu'il y ait alternance, on vous dit, bon, prenez les postes, servez-vous, allez dans la mangeoire, oubliez cette histoire d'alternance.
D'accord. Baba Isaac, certains analystes estiment qu'avec le départ d'Étienne Tshisekedi en Belgique pour un contrôle médical pratiquement de routine, ils estiment que la mise en œuvre de cet accord risque de ne pas être respectée. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais vous savez que c'est tout le monde, y compris quiconque, qui n'est pas pour les élections dans le délai prévu. Tout le monde, y compris quiconque. Parce que tous ceux qui font les petites manœuvres pour dire qu'on ne fasse pas ceci, qu'on ne fasse pas cela, c'est pour tout simplement empêcher la tenue des élections et refuser l'alternance politique. Vous devez le savoir. Et la majorité n'a pas préparé un dauphin. C'est le fait n'avoir pas préparé un dauphin qui pouvait remplacer le président après, à l'issue de ces deux mandats légaux, ils sont en difficulté et ils n'ont pas de candidats d'envergure qui peuvent remplacer Joseph Kabila à la place des candidats présidentiels. Donc, à ce sujet-là, vous devez comprendre que leur comportement est lié à ce manquement-là. Maintenant, ceux du rassemblement qui veulent avoir un changement, ils soutiennent une chose et son contraire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont divisés au point que quand on leur demande de présenter un candidat primaturable, ils en discutent pendant une semaine pour donner le nom d'un individu qui est contesté par eux-mêmes. C'est vouloir une chose et son contraire. Moi, je ne suis pas tellement chaud dans le comportement des uns et des autres. Maintenant, j'ai compris que personne ne veut de l'alternance politique au Congo.
Merci beaucoup. Et sur cette note que nous allons passer à notre deuxième thème de la soirée qui concerne le dernier rapport de Transparency International. La RDC est classée 156e sur 177 dans ce dernier rapport de perception sur la corruption publié mercredi 25 janvier. Et pour le président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et représentant de Transparency International en RDC, ce classement signifie que la RDC figure parmi les 20 pays les plus corrompus de la planète. Il le dit, Ernest Mpararo le dit à Nadine Floantimba.
Cela veut dire que nous sommes parmi les 20 pays les plus corrompus de la planète. Cela doit nous interpeller, doit interpeller les gouvernants, les présidents de la République, étant donné que lorsque nous sommes un pays corrompu, les investisseurs qui doivent venir investir dans notre pays ont tendance à ne pas venir. Les conséquences, c'est le chômage, c'est l'instabilité et c'est la pauvreté qui s'accroît. Malgré la nomination du conseil spécial en charge de la lutte contre la corruption par les chefs de l'État, nous pensons que ça n'a pas beaucoup changé, étant donné que les efforts pour lutter contre la corruption ont été moindres. Et comme vous le savez, durant l'année 2016, il y a eu beaucoup de dossiers de scandales de corruption qui ont été publiés par la presse nationale et internationale. Nous citons par exemple le dossier BGFI Bank, nous citons par exemple le dossier FPI, nous citons par exemple les Panama Papers. Un effort collectif, d'abord la première chose, c'est la responsabilité du chef de l'État à montrer l'exemple, c'est aussi la responsabilité des populations.
Il nous reste moins de 10 minutes pour finir cette tribune de presse. Jean-Pierre, un nouveau rapport et la RDC mal classée, qu'en pensez-vous?
Ben écoutez, je connais pas le baromètre utilisé par Transparency International pour nous classer dans les lots de ces 20 pays les plus corrompus au monde. Même si je sais que entre-temps beaucoup d'efforts ont été entrepris pour lutter contre
quels efforts par exemple
il y a par exemple la nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État chargé de lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, qui est en train de faire son travail, mais je crois qu'il faut faire la part des choses. Il a fait beaucoup de dénonciations entre-temps sur la table du procureur général de la République, mais une chose est de pouvoir dénoncer, une autre et de démontrer la culpabilité.
Est-ce qu'il a traduit en justice certaines personnes?
Ben, lui, il ne traduit pas en justice. Il fait son rapport qu'il dépose sous la table du procureur général et qui doit mener des enquêtes. Alors, comme vous le savez, il revient à celui qui allègue le fait d'en apporter la preuve. Si on n'a pas des preuves suffisantes qui peuvent accabler quelqu'un, donc ça ne sert à rien. Mais je reste convaincu que la RDC, à l'instar de bien d'autres pays à travers le monde, la corruption est un fléau, nous tous nous devions nous engager. Et seulement, je déplore que depuis, personne n'a été arrêté pour corruption dans tous les secteurs. Pourtant, la corruption y est, elle est devenue presque une règle. Et là, je déplore cette impunité. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des allégations ou qu'il n'y a pas des personnes corrompues ou qui ont corrompu. Et donc, je crois qu'il faut booster les choses. Il y a un autre point qu'il faut relever aussi, c'est
rapidement,
que, surtout en politique, quand on met la main sur un politique, vous verrez des gens crier sur l'acharnement, des gens commencer à exiger ce qu'ils appellent désormais la décrispation, faudrait que tel quitte. Donc, on a l'impression que les politiques sont au-dessus de la loi. Pourtant, ce sont eux qui sont au centre même de la magouille, au centre même de la corruption.
Très bien. Alors, JR, Transparency International, est-ce qu'elle a raison de classer la RDC à cette position? Malgré la nomination d'un conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre ce fléau.
En tout cas, la corruption, je sais que c'est un fléau mondial. Mais chez nous ici, hier comme aujourd'hui, c'est vraiment un véritable sport national. Vous circulez seulement sur la voie publique. Vous voyez nos policiers de roulage, ce qu'ils font. Aller par exemple dans un service de l'État pour chercher un document, même le passeport qui vous coûte par exemple 120, mais pour l'avoir, il faut payer peut-être deux fois plus. Donc ça, c'est une réalité. Mais pourquoi est-ce qu'il y a la corruption? Il faut d'abord se poser la question. De un, il y a d'abord cette question des salaires des misères qu'on paye aux gens.
Donc vous êtes d'accord avec Ernest Mparao?
Voilà, ces policiers de roulage, je vais le condamner, mais je condamne d'abord son employeur, l'État, qui lui donne un salaire de misère. Et ses pères de famille n'ont pas d'autre choix que de se livrer à la corruption. Le magistrat qui a laissé son enfant malade à la maison et qui se retrouve devant un dossier où on lui apporte de l'argent, est-ce qu'il va refuser? Deuxièmement, c'est aussi la tendance que nous avons. Les gens multiplient les besoins. On veut vivre au-dessus aussi de ses moyens. Par exemple, des ministres qui vous touchent beaucoup d'argent. Mais ils vivent au-dessus des moyens. Maintenant, on se concerne des conseillers en charge de la corruption. En principe, on n'a même pas besoin de ces conseillers-là pour lutter contre la corruption. Pour lutter contre la corruption, il faut combattre les causes, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie, et il faut combattre l'impunité aussi.
D'accord.
Malheureusement, la justice, c'est rapidement, qui est censée en tout cas punir les infractions, s'occupe beaucoup plus des infractions politiques et délits d'opinion. Mais les crimes économiques restent impunis.
Très
même
bien.
Ses conseils sont allés devant le PGR, lui déposer beaucoup de dossiers. Rien n'a été fait.
D'accord.
Le dossier de la FPI, du Fonds de promotion de l'industrie. C'est beaucoup de dignitaires qui doivent de l'argent à cet organisme
et
qui ne payent toujours pas. Ils ne sont pas sanctionnés, ils ne sont pas poursuivis.
Je reviens à vous pour la conclusion. Baba Isaac, qu'est-ce que vous partagez finalement l'inquiétude du président de la LICOCO et représentant de Transparency, surtout lorsqu'il il évoque les cas concrets, genre BGFI Bank et compagnie?
Chers confrères, estimés confrères, les Latins disent « Qui vis pacem parabellum ». Celui qui veut la paix doit préparer la guerre, il doit s'attendre à tout. Et présentement, nous sommes TPP, le pays très pauvre, mais endetté totalement. Nous sommes un pays où la corruption fait rage. Nous sommes un pays où l'insécurité règne. Mais nous, nous voulons la paix, nous voulons la démocratie et nous voulons l'alternance. Comment pouvons-nous nous attaquer à ces fléaux qui fragilisent la paix, qui fragilisent la démocratie et qui empêchent même l'alternance pacifique? Donc, c'est nous, vous et nous, ici, que nous devons nous battre pour que le message que nous faisons passer à travers la fréquence de la paix donne l'occasion au peuple d'apprécier et d'analyser froidement les questions qui se posent au pays. Nous sommes corrompus et nous occupons ça, cette 56e place, et alors que nous étions à 56e place pour les pays pauvres très endettés. Mais un pays où coule le lait et le miel, que vous ne pouvez pas comparer au Burundi, que vous ne pouvez pas comparer au Rwanda. Donc comprenez ma souffrance, je ne veux pas comprendre que nous ne prenions pas conscience de combattre tous ces fléaux pour que la paix revienne et pour que la gouvernance soit convenable et que le pays émerge du lot.
Et donc, pour conclure, il y a déjà JR qui a proposé une piste parce que le président de la de Transparency International a déclaré la corruption doit être combattue d'urgence afin que la vie des gens s'améliore dans le monde entier. JR a essayé de dire qu'il fallait commencer d'abord par améliorer les salaires des employés. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui doit être fait de manière concrète pour lutter contre la corruption? Ce sera votre conclusion en quelques secondes.
Non, je suis d'accord avec ce qu'il propose, mais ils doivent savoir que pour préparer à manger, pour préparer le foufou, on regarde la quantité de la farine et la quantité de l'eau à mettre dans la marmite. Si vous n'êtes pas capable de payer les fonctionnaires, de payer les travailleurs qui sont employés au Congo, comment voulez-vous empêcher la corruption? Comment pouvez-vous assurer la bonne gouvernance? Ça, c'est un deuxième. Le gouvernement de l'Ibanga lui-même a fait voter un crédit provisoire. Mais ceux qui ont fait la comptabilité peuvent vous le dire. Qu'est-ce qu'un crédit provisoire? Qu'est-ce que le crédit provisoire, c'est-à-dire un budget? C'est une prévision pour faire face à une crise ou à une situation qui est en face des gouvernants.
Merci.
Qu'est-ce que c'est un budget? Donc, vous voulez payer les fonctionnaires avec quel argent, avec quel budget?
D'accord.
Ils sont partis de 9 milliards à 4 milliards. Un pays où coule le lait et le miel. Mais c'est grave ça, mon frère.
Merci beaucoup, ce sera votre conclusion. Jean-Pierre, votre conclusion, très rapidement, qu'est-ce qui doit être fait?
Écoutez, la corruption a des conséquences très néfastes sur la vie de la société. Nous les vivons, nous en sommes victimes. Je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, au-delà de ce que les confrères ont évoqué, moi je crois qu'il faut jeter tous les corruptibles en tôle. Et comme ça, il faut la chicotte. Comme ça, ça aura un effet dissuasif sur d'autres. J'ai vu au Rwanda Kagame jeter même ses propres frères en tôle. Et quand ils moisiront pendant un temps, ils en tireront des leçons.
Merci.
Donc, dans ce pays, ça fait longtemps que quelqu'un a été emprisonné pour corruption. Je crois qu'il y a urgence.
Merci beaucoup. Et JR, très rapidement avant de conclure.
Oui, la corruption, c'est un fléau, en tout cas, qui prive à la RDC, pays immensement riche sur le plan des ressources naturelles, de beaucoup de moyens. Il semble qu'il y a plusieurs milliards qui, en tout cas, circulent dans les poches des particuliers.
Qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement?
Ce qu'il faut faire, en tout cas, je crois, c'est la justice qui doit faire son travail. La justice doit changer un peu son paradigme.
Mm-hmm.
Au lieu de s'attaquer à ceux qui critiquent, à ceux qui émettent des points de vue, à ceux qui crient pour l'alternance, mais il faut s'attaquer aussi aux criminels économiques, ceux qui volent l'argent de l'État et qui privent à l'État, en tout cas, le moyen de sa politique, doivent être, en tout cas, sanctionnés.
Merci beaucoup. Ce sera la fin de la tribune de presse pour ce soir. Mimi Kindo était à la prise de son. Kélin Kouté a coordonné cette édition supervisée par Pelé Kipelamondo. Berry Franklin Luchaka vous dit merci de nous avoir suivis. Remarques et suggestions, écrivez-nous un mail à dec@radiocapi.net et retrouvez cette émission sur www.radiocapi.net. Restez fidèles au programme de Radio Capi, la fréquence de la paix. Au revoir.